Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans RTL Midi. C'est 2h30 d'information, d'opinion avec vous jusqu'à 14h30. Vous savez, Pascal Praud a pris un petit peu de repos, bien mérité. Il sera de retour lundi prochain. Bien évidemment, RTL reste avec vous, à votre écoute. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette mi-journée. On va échanger, dialoguer, parler de la préparation de la table du réveillon. Comment faire une belle table de fête? Parler aussi de Gérard Depardieu tout à l'heure qui souffle aujourd'hui ses 74 bougies. Et puis bien sûr réagir à toute cette actualité de cette fin d'année. Le 32-10 est avec vous et fait pour vous. C'est donc l'information jusqu'à 13h avec vous Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Le chauffard de Montpellier interpellé, l'homme soupçonné d'avoir renversé et tué le jeune Ayman le soir de la demi-finale France-Maroc. Du jamais vu depuis 30 ans à cause de la grève des libéraux, SOS Médecins croule sous les appels. Son patron Serge Madja est avec nous dans RTL Midi. Un vrai chèque pour ceux qui se chauffent au bois, disponible depuis ce matin, montant compris entre 50 et 200 euros. La Chine se rouvre au monde, fin de la quarantaine à l'arrivée, les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager et pourtant le pays est submergé par le Covid. Alors faut-il s'inquiéter de ce relâchement soudain? Faut-il craindre des conséquences chez nous? On en parle à midi 40 avec l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Et puis les très bonnes audiences de Charles III. Et oui, son message de Noël a été le plus suivi depuis 30 ans.
Il a donc fait mieux que sa mère, la reine Elisabeth. On pourrait en parler si vous le souhaitez au 32-10. En tout cas, RTL est toujours plus proche de vous. Et cette semaine, vous le savez, dans RTL Midi, un jour chez vous, on dresse le portrait des héros de 2022.
Aujourd'hui, trois héros, trois jeunes colocataires qui ont donné l'alerte à Lille en novembre dernier. Leur immeuble s'est effondré, faisant une victime. Le bilan aurait pu être bien, bien plus lourd. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, Monique Younes nous parlera des chasubles des prêtres en soie richement brodées, vous l'entendrez.
Et puis la question du jour sur RTL.fr.
Gérard Depardieu est-il le plus grand acteur français?
Oui, on vous pose la question puisqu'il a 74 ans aujourd'hui, Gérard Depardieu. Et vous pouvez voter sur RTL.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Autant de sujets dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole, évidemment.
Et puis la météo, c'est avec vous Anthony Kaczmarek. Bonjour.
Bonjour à tous.
Cet après-midi, en quelques mots,
les températures sont en baisse temporairement et puis il y a encore beaucoup de nuages du sud-ouest au nord-est.
Merci Anthony, météo complète à la fin de ce journal.
RTL Midi.
Deux semaines après la mort du jeune Ayman à Montpellier, le chauffard a donc été interpellé.
Le conducteur de cette voiture qui a percuté l'adolescent de 14 ans, c'était dans le quartier sensible de la Paillade, juste après la demi-finale France-Maroc. L'homme était en fuite, activement recherché, Patrick Tejero. Il a été interpellé ce matin à l'aube, tout près de la frontière avec l'Espagne.
Oui, il semble que les enquêteurs attendaient son retour à Perpignan. Il s'était enfui en effet, cet homme, dans le sud de l'Espagne, dès le 14 septembre, le soir du drame. Il avait été immédiatement identifié par les témoins. Il s'agit d'un jeune gitan sédentarisé de 20 ans, de nationalité franco-espagnole. Il conduisait une voiture empruntée à un garagiste, un drapeau français coincé dans la vitre latérale arrière. Il multipliait les allers-retours sur l'avenue de Barcelone, l'artère centrale du quartier populaire de la Paillade. Un groupe s'était approché pour arracher le drapeau et le conducteur, certainement au prix de panique, avait brutalement fait demi-tour sur la voie du tram et il avait alors percuté plusieurs personnes, dont le jeune Ayman, 13 ans, les secours arrivaient très vite, n'ont pas pu le sauver. Alors j'ai contacté il y a quelques instants le frère d'Ayman. Il m'a dit son soulagement en effet, car la famille redoutait plus que tout que le conducteur ne soit pas retrouvé. Il réclame désormais justice.
Merci Patrick Tejero, correspondant RTL en Occitanie. Il s'est réveillé en prison ce matin, l'auteur de la fusillade vendredi à Paris, soupçonné d'avoir tué trois membres de la communauté kurde. Le retraité de 69 ans a été placé en détention provisoire, mis en examen pour assassinat à caractère raciste. Dans le journal de midi 30, nous reviendrons sur son attaque l'an dernier d'un camp de migrants. La dangerosité de l'homme aurait-elle pu être mieux évaluée? Nous poserons la question.
Eh bien voilà, des étrennes, bienvenue évidemment pour les Français qui se chauffent au bois.
Depuis ce matin, 2 600 000 ménages peuvent réclamer une aide au gouvernement, aide comprise entre 50 et 200 euros. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Alors ce chèque, comment fait-on pour l'obtenir? Comment on le demande?
La demande se fait uniquement en ligne. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur la plateforme gouvernementale chèqueboisfuel.asp-public.fr. Je répète parce que c'est pas simple. chèqueboisfuel.asp-public.fr. Pour en bénéficier, vous devez prouver que le bois est bien votre mode de chauffage principal en joignant une facture à votre nom d'un montant minimal de 50 euros et datant de moins de 18 mois ou un justificatif de votre syndic si c'est un chauffage collectif. Ensuite, vous recevrez le chèque à partir de la mi-février. Son montant sera de 50, 100 ou 200 euros en fonction de vos revenus et du combustible choisi. Par exemple, si vous gagnez moins de 1200 euros par mois et que vous vous chauffez avec des bûches ou des plaquettes, vous toucherez 100 euros d'aide. Mais si vous utilisez des granulés, cela montera à 200 euros d'aide car le prix des granulés a plus que doublé en un an. Vous pourrez ensuite utiliser votre chèque jusqu'à la fin de l'année 2023 pour payer votre vendeur de bois ou tout autre fournisseur d'énergie.
Merci Armelle Lévy du service économie de RTL.
Vous vous chauffez au bois, alors dites-nous pourquoi et puis dites-nous aussi si pour vous ce chèque est le bienvenu. 3210.
Une bonne nouvelle sur le front énergétique, on l'apprend ce matin, l'éclairage public enregistre une baisse historique. Sa consommation d'électricité en baisse de 20% sur les deux premières semaines de décembre. On y revient à 12h30. Et puis, vous vous en êtes peut-être rendu compte si vous avez attrapé un mauvais rhume ou abusé des bonnes choses ce week-end. Difficile de trouver un médecin depuis hier. Les libéraux sont en grève. SOS Médecin est débordé. Son patron répondra à nos questions juste après ce journal.
Ça, c'est un sacré succès d'audience pour Charles III, puisque pour son premier message de Noël, eh bien le roi d'Angleterre a fait mieux que sa mère Elisabeth.
10 millions de Britanniques, plus de 10 millions, ont suivi son discours dimanche. Marie Bouédois, c'est 1 million de plus que celui de l'an dernier.
Oui, plus donc que l'ultime message de la reine. C'est la première fois en 30 ans que la barre des 10 millions est franchie. Alors déjà, parce que depuis 70 ans, la reine prononçait ce discours. C'était le premier grand message de Charles III à la nation. Il se tient debout dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, là où reposent ses parents. La question qu'on pouvait se poser, va-t-il se démarquer de sa mère dans ce discours? Sur le fond, pas tant que ça finalement. Et surtout, va-t-il mentionner son fils cadet Harry et sa belle-fille Meghan qui multiplient les attaques contre la couronne depuis qu'ils sont exilés en Californie? Réponse, non, aucune allusion au couple rebelle. Juste avant Noël, Harry et Meghan ont sorti un documentaire dans lequel Charles et William ne sont pas épargnés. Le premier épisode diffusé il y a 2 semaines avait attiré en Grande-Bretagne plus de 2 millions de curieux en moins de 24 heures. Comme quoi l'audience et la famille royale font bon ménage, encore plus après la mort de la reine.
Marie Boueda à Londres pour RTL, merci à vous. Enfin, un mot des États-Unis où la violente tempête hivernale a fait au moins 49 morts à travers tout le pays, dont 27 dans un seul comté de l'État de New York. Et ce blizzard du siècle, comme il est surnommé, est loin d'être terminé. C'est l'avertissement des autorités. La météo, Anthony Kazmarek, la météo chez nous. Anthony, c'est la seule journée calme de cette semaine.
Exactement, Antoine, journée calme pour ce mardi, mais il reste encore beaucoup de bandes de grisaille. Cette grisaille prend son temps pour se dissiper et elle devrait persister jusqu'à ce soir dans le sud-ouest, dans le Val-de-Saône. Elle va se morceler dans le nord-est et puis ailleurs, comme en Île-de-France, en Champagne. Bonne surprise, le ciel bleu est déjà de retour. Oui, mais quelques nuages abordent déjà les côtes de la Manche avec les premières averses qui seront là dans quelques minutes sur le Pas-de-Calais. Et ces averses vont gagner tout le nord-ouest du pays d'ici à ce soir. Ailleurs donc, quand les grisailles se seront dissipées, retour d'éclaircies. Et puis plein soleil comme hier entre les Alpes, la Méditerranée et l'Est des Pyrénées. Les températures, elles ont baissé, elles retrouvent quasiment un niveau de saison au nord. C'est encore bien doux dans le sud, il fera cet après-midi 6 degrés à Reims, 7 à Paris, à Strasbourg, 8 à Lille, 9 à Grenoble, 11 à Clermont-Ferrand et encore 14 à Toulouse, 16 à Marseille et 19 pour Perpignan et Ajaccio.
Donc si je vous ai bien compris, toujours pas de neige dans les stations de ski de moyenne montagne?
Alors peut-être dans la nuit de jeudi à vendredi entre 1500 et 2000 mètres. Mais après, c'est terminé.
Bien, on peut en parler aussi si vous êtes au ski, si vous avez cette chance.
Si vous avez de la neige.
Et si vous avez de la neige, ou si vous n'en avez pas d'ailleurs, hein, on vous attend. Merci beaucoup, Anthony, à tout à l'heure.
RTL Midi, un jour chez vous.
Oui, un jour chez vous, c'est chaque jour l'info au plus près de vous. Et cette semaine, on célèbre des héros. Ces héros qui ont marqué l'année 2022.
Et nous partons aujourd'hui à Lille, dans le Nord, dans la nuit du 11 au 12 novembre. Thibaut, Constantin et Gaspard, 3 colocataires âgés d'une vingtaine d'années, ont donné l'alerte aux pompiers pour faire évacuer leur immeuble. L'immeuble qui s'effondrera quelques heures plus tard, tout comme l'immeuble mitoyen faisant une victime. Antoine Decarne, cette nuit-là, leur sang-froid a permis de sauver 17 vies.
Oui, il est 3h du matin au 44 rue Pierre-Mauroy, une rue pavée du centre-ville de Lille, quand Thibault Lemay rentre chez lui après une soirée entre amis.
C'était pas une grosse soirée. Quand je suis revenu vers 3h du mat, je mets le badge. Je vois, dès qu'on rentre, qu'il y a un gros problème sur le mur qui est totalement ouvert. Il sort de 20 cm et les parties adjacentes à ce mur sont totalement bombées. Directement, je décide d'aller voir mes colocs. Je monte en courant en me disant « Allez les gars, là, va falloir agir, il y a un gros problème. »
Ses colocataires, Gaspard et Constantin, était rentré de l'escalade à 23h15. Il n'y avait alors rien d'apparent dans le hall et quand Thibault rentre à l'appartement, ils sont encore éveillés.
On venait juste de finir le film. Là, on entend quelqu'un taper sur la porte. On se dit forcément c'est Thibault qui rentre. Mais qu'est-ce qu'il a tapé comme ça? Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement la porte était bloquée. Il y a Constantin qui vient aider avec un tournevis et qui arrive à débloquer la porte.
On entendait encore quelques bruits de gravats qui tombaient. Donc en fait, on sentait que ça continuait à bouger et que ça n'allait pas s'arrêter.
Alors les trois étudiants en école d'ingénieurs se rassemblent, organisent une mini cellule de crise et décident de contacter leur propriétaire.
Bon, à 3h du mat, évidemment, pas de réponse, ce qui est logique. Et du coup, on se dit, bah, on appelle les pompiers et puis on verra bien.
Et donc, c'est à ce moment-là, Antoine, que démarre l'évacuation.
Oui, Constantin compose le 18, il fait un état des lieux aux pompiers et 8 minutes plus tard, ils sont sur place.
On fait constater les dégâts et ils décident de nous évacuer en fait.
Donc on est rentré chez nos parents.
On pense juste à aller se coucher, on verra plus tard pour le coup.
Et c'est au réveil que les trois colocs apprennent que leur immeuble ainsi que l'immeuble mitoyen qui n'avait pas été évacué se sont effondrés.
Il y a des messages par centaines qui arrivent. J'en repère un où il est marqué « Salut, ça va, t'es en vie, ton immeuble s'est effondré ». Et là, c'est aussi le moment où moi, je m'effondre dans le sens où j'ai plus d'affaires, j'ai plus rien et faut reprendre tout à zéro.
Le jour d'après, ils apprennent aussi qu'il y a un mort, Alexandre Klein, un médecin resté dans les décombres. Il logeait dans l'immeuble d'à côté.
Là, ça changerait vraiment la donne parce que c'est vraiment plus dramatique que ça en avait l'air au début.
Et pour eux aussi, il a fallu se reconstruire.
J'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à travailler, j'avais pas du tout la tête à ça.
Nous, on a juste fait ce qu'on a jugé de normal. Pour nous, on n'a rien fait de plus.
Et aujourd'hui, ils aimeraient retrouver une colocation tous les trois.
On cherche toujours un appartement, quoi.
Trouver un T4 à trois mecs, en fait, visiblement, ça plaît pas à beaucoup de gens.
Alors, propriétaire, n'hésitez pas à ouvrir votre porte à ceux qui, s'ils ne veulent pas être désignés comme des héros, sont sans doute les meilleurs locataires de l'année.
Les meilleurs locataires de l'année qui ont donc donné l'alerte, qui ont sauvé la vie de 17 personnes. Merci Antoine Decarne, correspondant RTL dans le Nord.
Chapeau à eux, bien évidemment. Et demain sur RTL, on saluera, on célébrera de nouveaux héros de 2022. Il est presque 12h13. Tiens, on va marquer une première pause dans RTL Midi. On prend le temps, vous le savez, de décrypter l'actualité. Dans un instant, on va parler de la grippe. Oui, la grippe, l'épidémie a de l'avance cette année, peut-être environ 3 semaines d'avance. Mais voilà, ça change tout. Et le nombre d'hospitalisations, tenez-vous bien, a bondi de 118% en une semaine. Alerte à la grippe. On est dans un instant avec le patron des SOS Médecins.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Et à midi et quart sur RTL, on parle donc de la grippe qui revient. Alors c'est normal, direz-vous, hein, cette saison. Oui, sauf que cette fois, elle arrive avec près d'un mois d'avance, un retour fracassant dans la vie des Français, puisqu'en une semaine, tenez-vous bien, le nombre d'hospitalisations a bondi de 118%, donc il a plus que doublé.
Et ce, en pleine grève des médecins libéraux. Pour en parler avec nous, Serge Smadja, médecin généraliste, secrétaire général de SOS Médecins et président de SOS Médecins Grand Paris. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors d'habitude, la grippe arrive plutôt en janvier. Comment expliquer ce décalage qui surprend tout le monde, y compris tous ceux qui pensaient se faire vacciner dans les prochains jours ?
Alors, honnêtement, c'est pas tout à fait exceptionnel que la grippe arrive en décembre. Hein. C'est la durée d'apparition, elle est un petit peu variable, mais c'est pas exceptionnel qu'elle arrive en décembre. Elle arrive entre décembre, janvier, février. C'est pas la première fois. Ce qu'il y a d'inhabituel dans ces triples épidémies, c'est qu'elle est extrêmement importante avec une courbe ascendante qui n'arrête pas de grimper et elle arrive de manière concomitante d'un nouveau virus. Je sais pas si on peut dire nouveau puisqu'il existe depuis maintenant près de 3 ans, qui est le Covid, alors que les bronchiolites se terminent. Donc il y a une concomitance de 3 épidémies, avec une épidémie de grippe qui est donc dans une courbe toujours ascendante, et des symptômes qui sont particulièrement aiguë. Vous savez, chaque année, on a l'habitude de dire, alors la grippe cette année, elle est comment ? Elle est que c'est devenu presque le marronnier de l'hiver. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle donne des symptômes qui sont des symptômes qui altèrent assez fortement l'état général et qui fait que les gens ont besoin de consulter. Il faut quand même rappeler que dans l'immense majorité des cas, c'est une pathologie bénigne, mais elle donne encore une fois cette année des symptômes qui peuvent inquiéter les citoyens.
Sur le plan géographique, quelle est la situation par exemple dans la capitale, hein, vous êtes le président des SOS Médecins Grand Paris, la capitale est particulièrement touchée ?
Oui, là, on est en épidémie France entière, mais à Paris, pareil, on a une situation que moi j'estime inédite. La conjonction de ces virus dont je parlais, associé au problème qui est latent depuis des années, hein, qui date pas de ces vacances scolaires là, mais le problème de la démographie médicale largement insuffisante fait que aujourd'hui la prise en charge des soins devient de plus en plus compliquée. Vous savez, on parle souvent des problèmes hospitaliers, mais les patients qui consultent en ville à l'hôpital, ce sont les mêmes, avec évidemment en fonction des situations des degrés de gravité différentes, avec des spécificités, mais c'est les mêmes patients. Et donc quand la communauté médicale a du mal à prendre en charge tous les patients, on est dans cette situation-là aujourd'hui que moi, je n'ai jamais connue. Ce n'est pas la première fois que je vis des épidémies, ce n'est pas la première fois qu'on a une concomitance de plusieurs épidémies, mais à ce niveau-là, de manière et avec le nombre insuffisant de médecins, la réponse à la demande de soins est effectivement un peu compliquée.
Pour vous, c'est en tout cas du jamais vu, hein, vous ne l'avez jamais connu.
Oui, donc on a ces chiffres de la grippe qui explosent et dans le même temps, on a cette grève des médecins libéraux. On imagine que vous, chez SOS Médecins, vous êtes débordé.
Oui, alors bon, la grève des médecins libéraux, nous on est solidaires. Comme je vous l'ai dit, il y a une crise majeure de la profession à laquelle il faut absolument répondre et donc il faut absolument que des mesures soient prise pour éviter ce que l'on vit aujourd'hui, mais nous sommes aujourd'hui sur le terrain, encore une fois, bien que solidaire, et j'insiste là-dessus, et il est extrêmement difficile de faire la part l'absence de médecins du fait de ce mouvement. Nous sommes, pour vous donner un ordre de grandeur de chiffres, on effectue environ dans notre réseau national 15 000 actes par jour. Répondons au moins 30 000 appels. Nous répondons à plus de 30 000 appels et des appels, il y en a certainement davantage. C'est pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui se passe.
Oui, effectivement, situation extrêmement préoccupante sur le front de la grippe. Face à la grippe, on peut aussi se protéger, Serge Smadja, le masque, on aère les pièces. C'est un peu comme pour le Covid.
Alors, c'est l'information qui n'a pas fonctionné pendant tout ce qui s'est passé pour le Covid, c'est-à-dire que tout ce qu'on a indiqué, toutes les mesures barrières dont on a parlé, et je crois que maintenant, franchement, tous les citoyens connaissent, elles sont efficaces. Pas spécifiquement contre le Covid, elles sont efficaces pour toutes les maladies respiratoires, que ce soit la grippe, que ce soit la bronchiolite, que ce soit la bronchite, toutes les pathologies respiratoires et aériennes se transmettent de la même façon. Donc toutes les mesures barrières que chacun connaît maintenant et qu'on a indiquées et conseillées à tout le monde, elles sont efficaces pour la grippe. Le lavage des mains, le masque, ne pas aller visiter des personnes fragiles, malades, etc. Toutes ces mesures barrières que tout le monde connaît, elles s'applique à toutes les maladies respiratoires, y compris la grippe. Donc c'est sûr que, voilà, si vous devez rencontrer des personnes fragiles, il ne faut pas aller les voir. Si vous avez des symptômes, il faut vous isoler, etc.
Avant le réveillon, il va falloir faire passer ce message. Là, on va se retrouver dans des lieux clos, on va être nombreux, on va faire la fête.
Voilà, c'est encore une fois difficile parce que c'est vrai que nous sommes dans une période festive et c'est vrai qu'on a tous besoin de faire la fête, on a tous besoin de s'évader, d'oublier, d'avoir des moments heureux, conviviaux, festifs, et donc il ne faut pas toujours être rabat-joie. Il n'empêche que sans être rabat-joie, on peut quand même répéter les mesures dont je viens de vous parler. Et quand on a des symptômes, on est obligé de s'isoler. Et quand on est obligé de s'isoler, et surtout pas se mettre en contact avec des personnes fragiles.
Merci beaucoup, Serge Medja. Je rappelle, secrétaire général des SOS Médecins, président des SOS Médecins Grand Paris, vous-même médecin généraliste débordé comme tous les autres. Alors voilà, on va faire très attention, notamment pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Éventuellement,
on aère,
on se lave bien les mains, on fait très attention. Mais on dresse une belle table. Parce
la
que c'est
belle.
Ça aussi une certaine idée de la fête. Comment dresser une belle table pour le réveillon? Bah tiens, on va en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien, Perry Cochin. À tout de suite.
RTL Midi. Vincent Parisot.
Vous savez pourquoi?
RTL Midi. Votre vie.
RTL Midi, votre vie, comment épater vos convives, vos invités du réveillon? On vous dit comment dresser votre table.
La table, hein, effectivement, vous connaissez la formule de la série. Et nous sommes avec Perry Cochin. Bonjour Perry Cochin.
Bonjour.
Alors on vous avait quitté chez Laurent Ruquier notamment, hein, mais on vous retrouve avec WA la table. Hein, WA la table, c'est W-A et 2-W. Je crois que c'est un concept que vous avez créé avec votre ami Arabelle Rey. C'est un concours sur Instagram, hein, pour le concours des plus belles tables.
Ça a commencé comme ça après le confinement. Mmh. On s'est dit, mais toutes ces personnes qui ont cuisiné pendant des mois et des mois, comment est-ce qu'elles ont fait pour bouffer? Dans quelle ambiance? Dans quel esprit elles ont servi ce qu'elles ont cuisiné? Mmh. Et on avait envie de voir. Donc on a lancé ce concours de la plus belle table. Voilà, Les gens nous envoient des photos de leur table. Et on a un jury composé de Thierry Marx, Stéphane Bern et India Mahdavi qui, toutes les semaines, nous disent quelle est leur table préférée. Et on fait gagner des cadeaux sublimes avec plein de partenaires toutes les semaines sur Instagram. Donc ça, c'était le départ.
Et puis maintenant,
ça existe, sur Internet. On est devenu une source d'inspiration pour les personnes qui ont envie de trouver des bonnes idées. On filme des tables toutes les semaines. Enfin bon, voilà.
Et Perry Cochin, c'est vrai qu'on parle beaucoup souvent de ce qu'il y a dans l'assiette, mais on parle peu de l'assiette en elle-même, de la table, de la décoration qu'on peut mettre. Une belle table, ça change tout?
Mais il paraît, je crois que oui. Non, mais vous savez quoi? Pourquoi je dis il paraît? Parce que tous les grands chefs que vous interrogez vous disent tous la même chose, que pour être en appétit, pour savourer un bon repas, il faut d'abord que l'œil se fasse plaisir. Mmh. En regardant une belle table, eh bien, on se met en appétit.
On passe aux travaux pratiques, Perry Cochin.
Passons aux choses pratiques,
parce que là, on va prendre des notes. Hein. On a une belle table à dresser. Tiens, alors pour un réveillon, on met des bougies.
Alors, on met essentiellement des bougies. J'allais vous dire, pour moi, une belle table, et surtout une table de réveillon, c'est que des bougies quasiment. C'est vrai, hein, c'est pas très important si l'assiette est exceptionnelle, jolie, c'est pas très important si les couverts sont en argent ou pas. Je pense que ce qui est le plus important, c'est la lumière et l'éclairage que vous mettez. Moi, je mettrais, si on n'a pas de chandelier et si on n'a pas des choses dédiées pour faire une belle lumière, et ben on peut prendre juste les chauffe-plats. Vous savez, les petits chauffe-plats
dans des sacs.
Exactement, on les achète par sac, on en trouve partout. Et vous comptez au moins 4 ou 5 chauffe-plats par personne.
Ah oui, effectivement.
Donc si vous êtes 2, vous en mettez 10. Et ainsi de suite, je ne vais pas vous faire la multiplication.
Non, parce que
c'est facile.
Oui, ça fait ça. Et ça va tout de suite créer une ambiance chaleureuse et une lumière.
Ça, tout de suite, ça va déjà donner un très joli teint aux dames et aux jeunes filles qui ont envie de plaire. Et de... Bah oui,
il n'y a pas de raison, mais aux messieurs aussi. Hein.
Voilà,
aux messieurs aussi.
J'y venais.
Tant mieux.
Nous, on a un peu de maquillage pour nous aider parfois, mais les garçons moins. Mmh. Et donc, et les garçons aussi, ça va leur donner très très bonne mine et ça va être merveilleux si on a plein de
alors,
bougies.
Alors voilà, bougies. Si j'ai bien compris, on n'est pas obligé de sortir l'argenterie, donc c'est pas une obligation.
Est-ce
qu'il y a des codes incontournables? Bon, évidemment, fourchette à gauche, couteau à droite quand même, c'est le minimum ça.
Oui, ça même c'est pas. A priori, mais même pas, parce qu'il y a des gens qui aiment bien mettre les deux du même côté. Alors si on veut mettre les deux du même côté, vaut mieux les mettre à droite.
D'accord.
Mais bon, c'est vrai que la règle, on va dire la règle en France, c'est couteau à droite, fourchette à gauche et les dents de la fourchette vers le bas.
Oui, mais oui, voilà, ça c'est très important.
Très important, je ne sais pas. Franchement, non, moi, honnêtement, je pense que les codes, tous ces codes-là sont un peu dépassés et on s'en fiche un peu. Je préfère dire, pour faire une belle table, mettez plusieurs verres. Un verre pour l'eau, un verre pour le vin et un autre verre pour un autre alcool éventuellement. Que les verres ne soient pas forcément assortis, qu'ils ne soient pas tous les mêmes.
Ah oui, on peut mélanger, c'est ça un petit peu la tendance aujourd'hui, c'est de mélanger.
Complètement.
Les tendances de 2022 pour cette fin 2022, Perry Cochin ?
Cette fin 2022, je pense qu'on peut mélanger l'ancien et le contemporain, c'est-à-dire si vous arrivez à ressortir des vieilles assiettes de votre grand-mère ou de votre mère, mais à l'époque de son, de son premier mariage.
Voilà.
et ben c'est très sympa de les mélanger avec des assiettes que vous avez pu acheter récemment.
Voilà.
Et c'est rigolo de pouvoir justement proposer un mix and match. Et ça évite, si vous voulez, de bloquer quand on a cassé une assiette ou quand on a cassé un verre. On se dit, oh là là, je ne peux plus utiliser ce que j'ai parce qu'il m'en manque. Ben non, pas du tout. On peut continuer à mélanger et c'est très charmant et ça personnalise en plus.
On mélange les styles, on mélange les époques et on illumine la table de bougies. Voilà les conseils de Perry Cochin. Je vous conseille évidemment le site internet et puis le site Instagram la table WAWW. On va évidemment suivre vos conseils. Merci de ce coup de fil, Perry. Il est 12h29. Toute l'info, tout de suite.
Antoine Cavallero, Vincent Parisot. RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Vous salue si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous, en tout cas, si c'est le cas depuis midi. Il est 12h30.
RTL Midi. Le 12-30. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Votre grande édition de la mi-journée avec vous, Antoine.
Les efforts pour baisser l'éclairage public, la consommation de nos lampadaires en baisse de 20% début décembre, c'est historique. Avec la grève des libéraux, SOS Médecins complètement débordés, reportage devant leur cabinet de Lille dans ce journal. Le tireur de l'attaque de la rue d'Anguin mis en examen pour assassinat à caractère raciste, mais de nombreuses questions aujourd'hui autour de son attaque l'an dernier d'un camp de migrants à Paris, attaque au sabre. La France insoumise est-elle en train de se transformer en cocotte minute? L'affaire Quatennens provoque des divisions et des silences embarrassés. Taïwan, sous la menace chinoise, la petite île organise sa défense.
Voilà, sans oublier la Chine qui rouvre ses frontières. Plus de quarantaine à l'arrivée en Chine, alors que l'épidémie flambe là-bas, totalement hors de contrôle. À midi 40, donc dans une petite dizaine de minutes, on va se demander si on peut redouter chez nous des conséquences. On sera avec un épidémiologiste, Dominique Costaglia.
Et puis, votre rendez-vous culture, LVT midi à midi 50. Aujourd'hui, Monique Younes nous parle de chasubles des prêtres en soie richement brodée. La question du jour sur RTL.fr, je vous la rappelle, Gérard Depardieu est-il le plus grand acteur français?
Oui, on vous pose la question parce qu'il a 74 ans aujourd'hui, Gérard Depardieu. On pourra en parler si vous le souhaitez dès 13h avec vous au 32-10 jusqu'à 14h30.
La météo, c'est à la fin du journal, mais Anthony, la tendance?
Un temps calme, nuageux à l'ouest et surtout temporairement moins doux.
Merci Anthony.
RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Baisse historique, sobriété pour l'éclairage public.
Sa consommation d'électricité en baisse de 20% sur les deux premières semaines de décembre. On l'a appris ce matin. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Les collectivités donc ont fourni un effort considérable.
Alors cette baisse concerne la période minuit 4h du matin, selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis. En fait, la hausse du prix de l'énergie a accéléré une tendance qui se développait lentement depuis quelques années, donc éteindre les lumières inutiles la nuit, mettre en place parfois des systèmes d'éclairage automatique. Le lampadaire s'allume tout seul quand un piéton est dans la rue. Il a été démontré qu'il n'y avait pas plus de problèmes de sécurité la nuit dans des rues qui ne sont pas éclairées. Les associations qui luttent contre la pollution lumineuse le demandaient depuis des années. Alors 20% c'est bien, mais ça pourrait être beaucoup plus. Une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur sur l'extinction des enseignes lumineuses. Ça concernera aussi les publicités en juin prochain. Si c'est appliqué, ça fera faire beaucoup plus d'économies.
Bon, en tout cas, chapeau aux municipalités. Et alors pour nous, pour les particuliers, cet objectif de moins moins 10%, Virginie. On s'en approche ?
Alors, c'est un objectif global. Alors, oui, hein, il y a eu des efforts aussi. Alors, plus au départ dans les entreprises, les industries. Et depuis trois semaines, chez les particuliers, globalement, on a 9% de baisse de consommation d'électricité en France par rapport à l'an dernier, depuis un mois. Chez les particuliers, c'est plutôt 7%. Mais la crainte des coupures cet hiver s'éloigne fortement.
Merci, Virginie Gard.
Vous venez de l'entendre hein, sur RTL, c'était il y a quelques minutes, le cri d'alarme du secrétaire général des SOS médecins, Serge Madja. Il assure qu'il croule sous les appels.
C'est à cause de la grève des médecins libéraux. 70% d'entre eux ont fermé hier, selon le collectif à l'origine du mouvement. Illustration de cette cohue devant les cabinets des SOS médecins. Illustration devant le cabinet de Lille. Reportage signé Antoine Decarne.
Il y a du monde à l'extérieur du cabinet. La file s'étend jusqu'à une dizaine de mètres et l'attente est importante. Julie est venue avec son fils. Il ne pouvait plus attendre un rendez-vous.
On est venu simplement parce que notre médecin habituel ne pouvait pas nous recevoir avant le 9 janvier. Et ça fait 5 jours qu'on tousse, qu'on a la gorge en feu et qu'on n'en peut plus. Quoi. On ne dort pas, on a mal. Ça tombe dans la mauvaise période et ça devient compliqué. Ouais.
Et en plus de l'attente à l'extérieur, il y a deux sas à l'intérieur remplis. Shafik vient de sortir du cabinet d'SOS médecin pour son fils.
Je suis venu à 9h30. On a attendu 45 minutes dehors. Ça fait 2h30 que je suis là. J'appelle mon médecin, le cabinet est fermé. J'appelle le médecin qui est censé le remplacer. Il ne prend pas de consultation aujourd'hui. Bah certes, ce n'est pas des associations, mais ce n'est pas des businessmen non plus. Quoi. Ils sont là au service des gens. Quand tu as un enfant de 3 ans qui fait 39,4 de fièvre, qui convulse le soir, t'explique tous les symptômes, et puis on te dit d'aller aux urgences, alors qu'il est totalement impossible de le voir chez un médecin traitant, bah t'es dégoûté un peu.
Et même si l'activité est très importante, un médecin me confie que c'était le cas chaque année à la même époque avec les vacances. Il ajoute que la grève ne fait qu'amplifier ce phénomène.
Antoine Decarne, correspondant RTL dans le Nord.
La galère pour trouver un médecin en ce moment, on peut en parler au 3210. On évoque maintenant l'attaque de la rue d'Anguin et on se demande si elle aurait pu être évitée, si la dangerosité de cet homme, de l'auteur de cette attaque, aurait pu être mieux évaluée, en tout cas évaluée plus tôt.
Il y a un an, ce retraité de 69 ans s'en prenait à un camp de migrants à Paris, attaque au sabre, faisant 2 blessés. Maxime Lévy, à l'époque, il a été poursuivi pour violence avec arme et non pour tentative d'homicide.
Oui, tout à fait. Dans cette affaire, le suspect est mis en examen pour un délit et non pas pour un crime. La détention provisoire, dans ce cas, est limitée à un an. C'est pour cela qu'il a été libéré récemment sous contrôle judiciaire. S'il avait été poursuivi pour tentative d'homicide à l'époque, sa détention provisoire aurait pu être plus longue, d'un maximum de 3 ans au lieu d'un. Il serait donc potentiellement toujours incarcéré, même si selon les témoignages, le retraité aurait crié « mort aux migrants » pendant qu'il les attaquait avec son sabre. L'intention de tuer n'a pas été retenue. Aurait-elle dû l'être ? Il est toujours difficile d'émettre un jugement a posteriori, mais c'est une question qui se pose aujourd'hui. Selon une source judiciaire, à l'époque, la nature des coups portés et les motivations du suspect n'étaient pas assez claires pour permettre de qualifier les faits en crime, mais le juge d'instruction attend toujours le résultat de plusieurs expertises. Le suspect pourrait donc très bien se voir jugé pour homicide à la fin de l'enquête.
Cela dit, Maxime Lévy, on a aussi appris à cette occasion un truc assez incroyable, le traitement qui a été réservé aux migrants que cet homme avait attaqué.
Oui, le retraité lacère donc au sabre les tentes se trouvant sur le parc de Bercy, dans l'Est parisien. Il blesse assez gravement 2 migrants. Le suspect est interpellé, mais pas seulement. Selon plusieurs sources concordantes, plusieurs migrants victimes de l'attaque sont également arrêtés avant d'être placés 48 heures en garde à vue pour violence volontaire aggravée. Faute de charges suffisantes, ils ressortiront seulement sous le statut de témoin assisté. En clair, ces migrants ont été pris au départ pour les participants.
D'accord. Explication, effectivement, de leur interpellation. Merci, c'est plus clair. Maxime Lévy, du service police-justice d'RTL.
Dans l'actualité également, l'arrestation ce matin près de Perpignan du chauffard de Montpellier, soupçonné d'avoir percuté et tué le jeune Aymen, adolescent de 14 ans. C'était à la mi-décembre, le soir de la demi-finale France-Maroc. Ça s'est passé dans le quartier sensible de la Paillade.
Allez, on ouvre un chapitre politique parce qu'alors, dites donc, la France insoumise est sans dessus-dessous. Dans l'affaire Quatennens, la grogne ne cesse pas, elle continue de monter.
Le député du Nord, suspendu depuis sa condamnation pour violence conjugale, hier, un millier de militants LFI ont signé une tribune dans le journal Le Monde. Ils réclament l'exclusion définitive de ce proche de Jean-Luc Mélenchon. Thomas Després, bonjour.
Bonjour.
Et depuis, on sent un certain malaise chez les cadres du parti.
Oui, pour vous donner un exemple, ce matin, avec Joséphine Tasdey du service politique, nous
nous avons contacté plus d'une dizaine de figures de la France insoumise pour les inviter à s'exprimer sur cette sanction imposée à Adrien Quatennens. Plusieurs militants regrettent un manque de débat interne et aucun ne s'est bousculé pour décrocher. Un député a même écrit il y a quelques minutes « Je peux vous répondre, mais hors micro, personne pour répondre à Lucas, militant insoumis à Rennes ».
Bah, la décision, elle a été prise uniquement par le groupe parlementaire. Je veux dire, les militants, ils n'ont pas eu leur mot à dire et ça provoque aussi ce phénomène de rejet. Le minimum aurait été de faire valider la décision du groupe par les militants.
Une décision opaque, dénonce ce jeune insoumis. D'autres militants n'hésitent pas à parler de déception, voire de trahison.
J'ai adhéré au parti parce que j'adhérais aux valeurs de la France insoumise et... J'ai eu l'impression qu'au premier coup de vent là, qu'il y a eu, on a vu que la démocratie, elle était capable de disparaître en un seul coup de vent.
Ce matin dans la presse, le député Antoine Léaumont, lui aussi proche de Jean-Luc Mélenchon, plaide le droit à la deuxième chance et à ne pas, je cite, mettre au banc de la société Adrien Quatennens.
Il y a clairement un décalage entre
la base militante et les cadres de la France.
Autour de Jean-Luc Mélenchon, notamment, et la figure de Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il a dit au départ sur les actes de Quatennens, on fait beaucoup
réagir. Et on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines. Tout l'enjeu de l'année 2023, c'est de savoir comment va se mettre en place la suite de Jean-Luc Mélenchon, maintenant qu'il prend un petit peu de ses distances.
En tout cas, merci Thomas Després. Évidemment, vous pouvez réagir si vous le souhaitez au 3210. Sur le plan social, on peut dire que la trêve des confiseurs n'a même jamais commencé, cette fois. Le gouvernement veut encore durcir un peu plus la réforme de l'assurance chômage.
Dans son décret transmis la veille du réveillon, l'exécutif annonce la couleur. Si le chômage passe en dessous des 6%, la durée d'indemnisation serait réduite de 40%. Les syndicats voient rouge et ça risque de rajouter de l'huile sur le feu au moment où la réforme des retraites s'apprête à être débattue à l'Assemblée. Illustration ce matin sur RTL, lors du débat entre Denis Gravouille de la CGT et le sénateur macroniste des Hauts-de-Seine, Xavier Iacobelli.
Le lien va se faire avec la réforme des retraites parce que par exemple, perdre des mois de chômage, c'est quand même baisser les droits en durée et c'était exactement le contraire d'ailleurs ce qui avait été dit par la Borne il y a l'année dernière, c'est par exemple pour un plus de 55 ans qui va perdre 3 trimestres de chômage, c'est aussi perdre 3 trimestres cotisés pour la retraite. Et si c'est encore plus en 2024, c'est enfoncer les gens, y compris pour leurs droits à retraite. Donc on va faire le lien, effectivement, et il va falloir que vous retrouviez le sens du dialogue social et déjà que vous retiriez, parce qu'elle est déjà pas possible de mettre, il n'est pas déjà pas possible de mettre dans le décret la disposition sur les 40%.
Moi, je rappelle pas juste qu'il n'y a pas d'effet rétroactif et que cette réforme s'appliquera uniquement pour les demandeurs qui s'inscrivent à partir du 1er février. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont indemnisés par l'assurance chômage ne sont pas concernés par cette réforme.
Une réforme de l'assurance chômage qui s'inspire du modèle canadien, le Canada où le système est en place depuis des décennies et qui suscite, Alexis Gacon, de plus en plus de critiques.
Oui, en fait, au Canada, la région dans laquelle on habite détermine tout d'abord le minimum d'heures qu'il faut avoir travaillé les 12 derniers mois pour être éligible au chômage. Plus le taux de chômage régional est bas, plus il faut avoir travaillé pour être éligible. Il détermine aussi le nombre de semaines d'allocation qu'on a le droit de toucher. Par exemple, à Montréal, où le taux de chômage est à un peu plus de 4%, la personne devra travailler 700 heures pour obtenir 14 semaines de prestations de chômage. Alors qu'en Gaspésie, à 10 heures de route de là, où le taux de chômage frôle les 10%, il suffit d'un peu plus de 500 heures travaillées pour avoir droit à ces mêmes 14 semaines. Le modèle existe depuis plus de 40 ans, mais il est souvent critiqué, notamment parce que le taux de chômage varie beaucoup selon les secteurs. Par exemple, quelqu'un qui a des compétences spécifiques dans un domaine pointu, mais qui vit dans une région au taux de chômage faible, il est pénalisé parce qu'il aura peu de semaines de chômage et il devra finir par accepter un emploi qui ne lui correspond pas si son secteur n'embauche pas dans sa région. Donc le modèle a des limites et le gouvernement Trudeau organise des consultations en ce moment. Il dit vouloir essayer de l'assouplir, notamment pour permettre à davantage de gens d'y avoir droit.
Alexis Gacon, correspondant RTL au Canada, et on l'apprend là, à l'instant, le nombre de chômeurs en France est en baisse assez conséquente, baisse de 2,1% au mois de novembre, selon les chiffres publiés ce matin par le ministère du Travail.
On rappelle que la baisse, enfin, le taux de chômage doit être de 6% éventuellement dans le cadre de cette réforme pour voir la durée d'indemnisation diminuer. On n'en est sans doute pas encore là, mais peut-être qu'on va s'en rapprocher. Après trois années de mesures draconiennes, après trois années passées enfermées dans leur propre pays, eh bien les Chinois regoutent un petit peu la liberté.
Les restrictions anti-Covid levées peu à peu et depuis hier, c'est carrément la quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine qui est supprimée, qui va être supprimée début janvier. Résultat, les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager. Problème, l'assouplissement provoque une explosion des cas de Covid.
Voilà, et dans quelques minutes, justement, on va s'interroger sur d'éventuelles conséquences pour nous avec une épidémiologiste, Dominique Costaglia.
La Chine, dans un tout autre dossier, qui menace toujours plus son voisin taïwanais, la petite île prépare sa défense. Bonjour Bénédicte Tassa.
Bonjour.
Ce matin, la présidente taïwanaise a annoncé un service militaire rallongé de 8 mois.
Oui, parce que personne ne veut la guerre, mais la paix ne tombera pas du ciel, déclarait ce matin cette présidente de Taïwan, en annonçant le passage de 4 à 12 mois du service militaire obligatoire. 4 mois de conscription, ce n'était pas suffisant pour répondre à la situation, parce que cette île de 24 millions d'habitants voit la menace chinoise se préciser. Avant-hier encore, Pékin a organisé des exercices militaires de grande ampleur qui ont débordé sur l'espace aérien de Taïwan. 71 avions, dont 60 chasseurs. Pékin qui veut que Taïwan, je le rappelle, redevienne chinoise, alors que les deux pays se sont séparés en 1949. Alors le gouvernement de Taipei prévient les jeunes nés après 2005. Ils devront exercer sous les drapeaux pendant une année et forment ces réservistes, achètent de plus en plus d'avions de combat, de missiles anti-navires, et les États-Unis sont derrière. Ils soutiennent Taïwan en lui vendant pour 2 milliards de dollars d'armement par an pendant 5 ans et en lui en accordant des prêts. On sait que ça ne sera pas suffisant, bien sûr. Un rappel, l'armée de terre de Taïwan, ce sont moins de 90 000 hommes, 1 million pour les Chinois.
Merci Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Le temps, on vous retrouve Anthony Kazmarek. Un peu moins de douceur ce mardi, mais ça va remonter dès demain.
Dès demain, et cette douceur culminera samedi pour la Saint-Sylvestre. On aura sans doute une moyenne des températures de l'après-midi de 16 ou de 17 degrés. Samedi après-midi, on n'en est pas là. Pour l'instant, donc, ça baisse un petit peu aujourd'hui. Avec 6 à 12 degrés au nord, c'est quasiment de saison. 9 à 19 pour la moitié sud. Et puis côté ciel, encore pas mal de grisailles, notamment dans le sud-ouest ou dans le Val de cet après-midi. Ailleurs, retour d'éclaircies, mais très rapidement des nuages aborderont la Manche avec quelques gouttes déjà en fin de journée pour la Bretagne et le Cotentin, avec un renforcement du vent et toujours beaucoup de soleil, sans neige d'ailleurs entre les Alpes, les Pyrénées et jusque sur le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup Anthony.
Dans un quart d'heure, vous prendrez la parole au 32-10, mais d'ici là, on va tout d'abord s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Vous savez que la Chine a décidé de lever quasiment toutes les restrictions face au Covid, de plus de quarantaine désormais, seul un test à l'arrivée. Eh bien, est-ce que ça risque d'avoir des conséquences massives alors que là-bas, l'épidémie flambe à un niveau absolument jamais vu? À tout de suite.
RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Vous savez pourquoi ?
RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
Le 8 janvier prochain, donc dans quelques jours, la Chine va mettre fin aux quarantaines obligatoires pour l'arrivée dans le pays. La décision a été énoncée hier après la levée au début du mois de la plupart des mesures anti-Covid qui étaient en vigueur depuis 2020. Ça veut dire qu'à compter du mois prochain, il faudra juste un test négatif de moins de 48 heures pour entrer sur le territoire chinois. Alors, est-ce qu'il faut craindre une vague de Covid venue de Chine? On en parle avec une épidémiologiste, voilà, Dominique Costagliola. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On estime actuellement qu'en Chine, 250 millions de personnes ont été contaminées en 3 semaines. Une telle explosion épidémique aura forcément des conséquences au-delà de la Chine?
Oui, d'abord ça va avoir des conséquences en Chine. Ça va avoir des conséquences aussi en termes économiques parce que ça va diminuer la production chinoise et un certain nombre de produits qui vont être plus difficilement accessibles, y compris les matières premières de certains médicaments. Et puis bien sûr, surtout s'il y a plus d'échanges et de voyages en avion, ça risque d'exporter des variants qui seraient créés à l'occasion de cette transmission extrêmement élevée.
Ah, de nouveaux variants? Vous voulez dire que cette explosion de l'épidémie peut créer de nouveaux variants en Chine?
Oui, bien sûr, parce que chaque fois que finalement le virus se transmet et se réplique, il y a de nouveaux variants qui sont créés et donc il y a le risque qu'il y ait un variant plus embêtant, c'est-à-dire soit plus transmissible, soit qui échappe davantage à l'immunité que nous avons déjà acquise et qui donc risque à nouveau d'entraîner plus de formes graves que ce qu'on voit à l'heure actuelle chez nous, qui est la résultante à la fois des variants qui circulent d'une part, mais d'autre part du niveau d'immunité qu'on a pu acquérir soit par l'infection, soit par la vaccination.
Et on dit que ce variant serait encore
plus contagieux que le variant Omicron. Est-ce que ce sont les données que vous avez aussi?
Ben, disons, les estimations de R que l'on a, elles sont forcément imprécises parce que les données chinoises ne sont pas très précises. Hein. Ils ont beaucoup changé la façon de donner les données ou même de ne pas les donner du tout. Mais effectivement, il y a des estimations qui estiment les R autour de 20, donc quelque chose qui est à peu près jamais vu pour aucun des virus connus jusque-là.
Du point de vue de l'épidémiologiste, Dominique Costagliola, quel regard vous portez sur ce qu'a fait la Chine, à savoir pendant des années, cette politique zéro Covid, extrêmement dure à supporter, et puis cette ouverture soudaine après la vague de contestation dont on a parlé, et même aujourd'hui, l'intention de débaptiser le Covid et de le rebaptiser virus infectieux, comme si ce n'était pas très grave.
En fait, c'était assez peu raisonnable. Disons qu'au tout début, pendant la période du début, janvier, février, mars, c'était peut-être la seule chose qu'on pouvait faire. Mais dès le moment où il y a eu des vaccins, bien sûr qu'il fallait absolument multiplier la vaccination. Et en Chine, ils n'ont pas bien réussi à vacciner les personnes les plus âgées. À la fois parce que ces personnes préfèrent utiliser des méthodes de médecine chinoise traditionnelle. Aussi peut-être parce que c'est une génération qui n'a que moyennement confiance en ses gouvernements successifs, hein, qui a vécu quand même des horreurs dans toute sa vie et qui donc peut-être n'a pas très incline à suivre ça. Et puis l'accompagner de mesures de disons pour limiter la diffusion, mais qui n'avait plus du tout besoin d'être des choses aussi sévères que ce qui a été ce qui a continué à être fait en Chine jusqu'à très récemment. Donc je pense qu'ils ont totalement loupé cette façon de gérer pour la période après celle de la première vague, au fond.
Et donc la Chine, Vincent le disait, va mettre fin le 8 janvier prochain aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, ce qui veut dire que là, les Chinois, on le voit sur les sites de voyagistes, sont en train de réserver des voyages à l'étranger, principalement en Asie, mais on imagine que voilà, ils vont pouvoir à nouveau faire du tourisme. Est-ce que on peut craindre que ce nouveau variant se propage dans d'autres pays?
Oui, évidemment. Je pense que c'est particulièrement important de faire de la surveillance virologique pour des avions ou des personnes qui seraient en provenance de Chine.
Ça veut dire quoi? Qu'on réinstaure des tests obligatoires
par exemple,
dans les aéroports?
Oui, par exemple, c'est quelque chose qu'on a pu discuter dans le groupe de l'OMS Europe dont je fais partie, d'imaginer d'avoir ce type de mesure, de telle sorte à ce qu'on puisse détecter éventuellement très précocement l'arrivée de nouveaux variants dans nos pays.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation qui est assez incroyable, hein, cette explosion du Covid. 250 millions de personnes contaminées en 3 semaines. 250 millions de personnes contaminées en 3 semaines. On a du mal à imaginer ce que ça représente. Merci beaucoup, Dominique Costagliola. Vous l'avez entendu réagir à nos côtés. C'est Monique Younes. Bonjour, Monique.
Bonjour.
C'est Madame Mode sur RTL.
C'est Madame Mode.
Et elle va nous parler de la mode des prêtres. Alors ça...
Mais oui, Les une mode en soie.
Oui, les prêtres sont à la mode.
Je crois qu'il y a un jeu de mots.
Ce sont des vêtements luxueux. Vous allez voir que le luxe est dans l'église aussi.
Eh ben, on va voir ça tout de suite sur RTL.
RTL Midi. Vincent Parisot, Antoine Cavallero. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Laissez-vous tenter midi, c'est la culture qui se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et donc aujourd'hui, nous allons parler mode, une certaine mode avec vous, Monique Younes.
Oui.
Rebonjour.
Rebonjour.
Une mode en soie, S-O-I-E, parce qu'en cette période de fête de Noël, vous êtes intéressé aux vêtements des prêtres.
Oui, des vêtements luxueux, les vêtements d'apparat des prêtres qu'ils portent quand ils célèbrent l'office. On parle rarement du luxe dans l'église. On appelle ces vêtements vêtements, les ornements liturgiques. Ils ont un statut patrimonial, sacré, ce sont les plus luxueux, donc les plus spectaculaires, comme les chasubles par exemple.
Oui, des chasubles. Et, oui.
Vous savez, plusieurs artistes ont imaginé des chasubles pour le clergé. En Italie, il y a eu le Bernin, aux Pays-Bas, Rubens, en France, Matisse, pour la chapelle du Rosaire, à Vence. Et il est arrivé à l'église de demander à des couturiers d'imaginer des ornements liturgiques. C'était le cas en 1997, quand Monseigneur Lustiger avait demandé à Jean-Charles de Castelbajac de dessiner les chasubles du pape, des évêques et des prêtres pour les Journées mondiales de la jeunesse qu'ils allaient avoir lieu à Paris. Castelbajac en garde un souvenir ému d'avoir travaillé pour le Vatican.
J'ai été le seul créateur à pouvoir travailler pour le Vatican, parce qu'en général, c'est des fournisseurs. J'ai proposé l'arc-en-ciel, mes trois couleurs, le rouge, le bleu, le jaune et le vert, et le noir pour les JMJ, donc 500 évêques, 5000 prêtres et le pape. Et ma récompense, c'est Jean-Paul II qui m'avait dit ça. Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Et en fait, la couleur, c'est le ciment de mon style.
Voilà, et les chasubles de Castelbajac, vous les verrez exposés à l'abbaye de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, aux côtés d'une centaine d'autres, dont les plus anciennes datent du XVe siècle.
Alors, parlons maintenant de la matière. Oui. Ces chasubles, elles sont, vous l'avez dit, en général, elles sont en soie.
Oui, alors celles aujourd'hui que vous verrez, par exemple les prêtres qui portent tous les jours, ils portent des chasubles en viscose ou en rayonne pour qu'ils puissent les pailler à la machine, les laver et hop et hop, tous les jours. Ouais. Mais les plus spectaculaires, les chasubles d'apparat, sont en soie richement brodées. Alors avant que nos amis lyonnais n'apprennent à fabriquer la soie, au XVe siècle, le clergé en France importait les soieries d'Espagne du Sud, de Sicile, mais surtout des pays musulmans du Proche-Orient. C'est Anne Lécher, la commissaire de l'exposition Mode en soie à l'abbaye de Fontevraud, qui me l'a dit.
C'est très amusant parce que dans les tombes des grands dignitaires, des évêques, des cardinaux, on trouve ces ornements coupés dans des tissus orientaux, des tissus musulmans, avec des inscriptions en caractère koufique qui prouvent aussi leur provenance.
Et donc il est arrivé à de nombreux prêtres et évêques de célébrer la messe avec les versets de Coran magnifiquement brodés sur leur chasuble. La beauté de la calligraphie et la richesse de la broderie transcendait tout. Ouais,
un peu d'écuménisme parfois ne fait pas de mal. Il y a des motifs récurrents d'ailleurs qui sont reproduits, j'allais dire presque systématiquement sur les chasubles.
Une débauche de motifs, ouais. Vincent. Alors il y a des motifs fleuris. Ensuite, il y a des motifs, des représentations animales, comme des agneaux, des poissons. Il y a des symboles eucharistiques, comme les épis de blé, des grappes de raisin, des crucifixes aussi en quantité. Et à partir du XVIe siècle, après le Concile de Trente et son lot de réformes, sont apparues des représentations des grandes figures de l'Église. Le Christ, la Vierge, les anges, les apôtres. Et des couleurs ont été fixées pour les différentes occasions. Par exemple, en ces temps-ci, entre Noël et le jour de l'an, c'est le blanc qui doit dominer. Et si les broderies devaient être aussi luxueuses et théâtrales, c'est pour une raison bien précise, m'a appris Anne Lécher.
La personne qui rentrait dans l'église devait avoir son œil attiré vers l'autel et vers le prêtre. Tout était fait pour que ça scintille, pour que ça brille, avec des broderies, avec des matières brillantes, pas toujours très précieuses, parce qu'on brode parfois en paille pour les autels et pour la chasuble, qui de loin donnait un effet doré. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils métalliques. Parce qu'avec la lumière des bougies, puis plus tard la lumière électrique, ça brille beaucoup et ça donne énormément d'effets. Et donc, pour les gens simples des campagnes, c'était l'accès au merveilleux.
Et Monique, est-ce que les chasubles ont toujours eu la même forme, ce disque percé d'un trou là, pour passer la tête?
Non, ça c'est le poncho, vous
comprenez. Vous savez, c'est pareil. Certains historiens avancent que c'est ainsi depuis le 4e siècle. Mmh. Ce qui fait la différence, ce sont les ornements. Et ce qui est passionnant à l'abbaye de Fontevraud, c'est de voir l'influence des missionnaires catholiques sur cette mode ornementale. Par exemple, oui, les missionnaires de retour de Chine, hein, puisqu'on en parle, ramenaient des chinoiseries, c'est-à-dire des tissus brodés de dragons, de personnages asiatiques assez caricaturaux, de pagodes. Ceux qui revenaient d'Afrique ramenaient des tissus imprimés de zèbres et de peaux de léopard. Et les religieuses des couvents taillaient des chasubles avec ces tissus. C'est quand même assez impressionnant. Et il y a des chasubles qui tombaient directement du ciel en Normandie.
Comment
en 44.
Ah, c'est pas vrai.
Mais si.
Au moment du débarquement.
Oui, monsieur, parce que les prêtres, bien avant que ça ne soit la mode, ont été les rois de la récup. Et vous verrez, à Fontevraud, des chasubles réalisées à partir de parachutes américains, en toile de camouflage. On apprend d'ailleurs que le clergé a, dès le XVIe siècle, recyclé toutes sortes de tissus pour faire des chasubles, des tissus d'ameublement, mais aussi des tissus féminins, des robes de mariée, des robes de bal. Mmh. Et vous verrez aussi exposé à l'abbaye de Fontevraud jusqu'au 30 janvier. Tout ça, jusqu'au 30 janvier. Et vous allez vous dire que, plus que jamais, c'est la chasuble qui fait l'évêque.
Oh oui, magnifique. Vous nous avez passionnés, mais du coup, on a pris un peu de retard. Merci beaucoup. Monique Younes. Il est 13h01.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
Juan Cavalierou, vous nous rappelez quand même l'essentiel de l'actualité de ce mardi.
Avec grand plaisir. Le chauffard de Montpellier interpellé, arrêté ce matin près de Perpignan, l'homme soupçonné d'avoir renversé le jeune Ayman le soir de la demi-finale France-Maroc, c'était à la mi-décembre. Le nombre de chômeurs en France en baisse de 2,1% en novembre, chiffre révélé il y a quelques instants par le ministère du Travail, chiffre donné en pleine polémique autour de la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement qui veut réduire la durée d'indemnisation en cas de taux de chômage.